Chapitre 10. L'assemblée des trois dynasties. Du fond de ses appartements, la reine Clémence entendit les hauts hommes se rendre à l'assemblée. Le tumulte de leurs voix se répercutait sous les voûtes et dans les cours. La réclusion de 40 jours que les rites du deuil imposaient à la reine venait de prendre fin la veille. Clémence, ingénument, avait cru la date de la réunion choisie tout exprès pour lui permettre d'y assister. Aussi s'était-elle préparée à cette réapparition solennelle, avec intérêt, curiosité, impatience même, et comme si elle reprenait goût à vivre. Mais à la dernière minute, un conseil de médecins, parmi lesquels les physiciens personnels du comte de Poitiers et de la comtesse Mao, lui avait interdit de s'exposer à une fatigue jugée dangereuse pour son état. Cette décision, en vérité, satisfaisait les divers partis de la cour, car personne ne se souciait de faire valoir les droits de Clémence à la régence. Pourtant, puisque l'on cherchait avec tant d'opiniâtreté dans les coutumes du royaume des précédents dont s'inspirait, on ne pouvait manquer de se souvenir d'Anne de Kiev, veuve d'Henri Ier, partageant le gouvernement avec son beau-frère Baudouin de Flandre, par cette qualité indélébile qui lui avait été conférée par le sacre. Et l'exemple plus proche encore de la reine Blanche de Castille était présent en mémoire. Mais le dauphin de Viennois, beau-frère de Clémence et le plus naturellement désigné pour la défendre, avait parti lié avec Philippe de Poitiers. Mais Charles de Valois, bien qu'il se donnât comme le grand protecteur de sa nièce, ne songeait qu'à travailler pour lui-même. Mais le duc Eudes de Bourgogne, qui était là, ainsi qu'il le déclarait, en représentant de la succession de sa sœur Marguerite, souhaitait en premier chef l'éviction de Clémence. Resté trop peu de mois au trône pour s'y être fait connaître et y avoir pris ascendant sur les barons, la belle Angevine n'était déjà plus considérée que comme la survivante d'un règne bref, troublé et à mains égards calamiteux. « Elle n'a pas porté chance au royaume, disait-on. Et si l'on tenait compte d'elle en tant que future mère, on lui marquait bien que comme reine, elle avait cessé d'exister. Enfermée dans l'aile du palais, elle entendit décroître les voix. L'assemblée entrait en séance dans la salle du grand conseil dont on fermait les portes. « mon Dieu, pensa-t-elle, pourquoi ne suis-je pas restée à Naples ?» Et elle se mit à sangloter en songeant à son enfance, à la mer bleue, à ce peuple grouillant, bruyant, généreux, compatissant à la douleur, son peuple qui savait si bien aimer. Pendant ce temps, Mille de Noyers lisait au baron le règlement de succession. Le comte de Poitiers avait pris soin de ne s'entourer d'aucun des attributs de la majesté royale. Son faux d'Esteuil était au centre de l'estrade, mais il avait refusé qu'on le surmontât d'un dais. Lui-même était vêtu d'étoffes sombres et sans aucun ornement. Il semblait dire « Messeigneurs, nous sommes ici en conseil de travail. » Simplement, trois sergents massiers se tenaient debout derrière son siège. Il assurait l'exercice de la souveraineté sans pour autant s'en prétendre investi. Mais il avait soigneusement préparé la salle et fait à chacun assigner sa place par les chambellans, selon un cérémonial à la fois assez arbitraire et assez roide, où les assistants retrouvaient les façons de Philippe le Bel. À la droite de Philippe était assis Charles de Valois, et aussitôt après, le connétable gaucher de Châtillon. Ceci pour surveiller l'ex-empereur de Constantinople et l'isoler de son clan. Philippe de Valois était relégué à 6 rangs de son père. À main gauche, Poitiers avait mis son oncle Louis d'Evreux, puis son frère Charles de la Marche, empêchant de la sorte celui-ci de pouvoir se concerter avec Valois en cours de séance et revenir sur la parole par eux donnée 4 jours plus tôt. Mais l'attention du comte de Poitiers se tournait surtout vers son cousin, le duc de Bourgogne, placé en retour d'estrade, et qu'il avait flanqué de la comtesse Mao, du dauphin de Viennois, du comte de Savoie et d'Anceau de Joinville. Philippe savait que le jeune duc allait parler au nom de sa mère, la duchesse Agnès, à laquelle sa qualité de fille de Saint-Louis conférait, même absente, un grand prestige sur les seigneurs. Tout ce qui touchait au souvenir de Louis IX était objet de vénération. Et les rares survivants qui pouvaient témoigner de l'avoir vu ou servi, qui avaient recueilli sa parole ou reçu son affection, se trouvaient revêtus d'un caractère un peu sacré. Il suffirait à Eudes de Bourgogne de dire « Ma mère, fille de notre sire Saint-Louis, qui l'a bénie au front avant d'aller mourir en terre infidèle », pour bouleverser l'assistance. Aussi, Afin de faire échec à cette manœuvre, Philippe de Poitiers avait fait surgir dans son jeu une pièce maîtresse et tout inattendue. Robert de Clermont, l'autre survivant des 11 enfants du roi canonisé, le 6e et dernier fils. Voulait-on absolument la caution de Saint-Louis ? Eh bien, Poitiers la produisait. Or, la présence de Robert de Clermont était d'autant plus marquante et impressionnante qu'il ne se montrait plus à la cour depuis bien longtemps. Sa dernière apparition remontait à près de 5 ans. Son existence était presque oubliée, et lorsqu'on s'en souvenait, nul n'osait en parler qu'à voix basse. En effet, le grand-oncle Robert était fou, depuis qu'à l'âge de 24 ans, il avait reçu un coup de masse d'armes sur la tête. Folie frénétique, mais intermittente, avec de longues périodes d'accalmie, qui avait permis à Philippe le Bel de se servir de lui, parfois pour des missions décoratives. Cet homme-là n'était pas dangereux par ce qu'il disait, il parlait à peine. Il était dangereux par ce qu'il pouvait faire, car rien ne signalait jamais qu'une crise allait le saisir et le jeter glaive en main contre ses familiers. Il offrait alors le pénible spectacle d'un seigneur de 62 ans, aussi majestueux d'aspect que noble de race, qui soudain fendait les meubles, tranchait les tentures et poursuivait les femmes de service devenues ses adversaires en tournoi. Le comte de Poitiers l'avait fait asseoir sur l'autre aile de l'estrade, en pendant au duc de Bourgogne et à proximité d'une porte. Deux écuyers monumentaux se tenaient à courte distance, chargés de le ceinturer à la moindre alerte. Clermont laissait flotter un regard méprisant, ennuyé, absent, qui se fixait soudain sur un visage, avec l'inquiétude douloureuse des souvenirs irretrouvables, puis s'éteignait. On l'observait, et sa vue causait un vague malaise. Tout auprès de ce fol siégeait son fils, Louis de Bourbon, lequel était boiteux, ce qui semblait l'avoir toujours gêné pour attaquer en bataille, mais non pas pour fuir, ainsi qu'il l'avait montré à Courtrai. Dégingandé, contrefait et couard, Bourbon, en revanche, n'était pas dépourvu de clairvoyance. Aussi venait-il de rallier, comme à son ordinaire, la protection du parti le plus fort. De ces deux princes, l'un pris à la tête et l'autre aux jambes, descendrait la longue lignée des Bourbons. Ainsi, en cette assemblée du 16 juillet 1316, se trouvaient réunies les trois branches capétiennes qui allaient pour 5 siècles encore régner sur la France. Les trois dynasties pouvaient ce jour-là se contempler, en leur fin ou en leur souche. Celle des Capétiens directs, qui s'éteindrait bientôt par Philippe de Poitiers et Charles de la Marche, celle des Valois, qui, avec le fils de Charles, prendrait la suite pour 13 règnes, celle enfin des Bourbons, qui n'apparaîtrait au trône qu'à l'extinction des Valois lorsqu'il faudrait remonter une fois encore à la descendance de Saint-Louis pour désigner un roi. Chaque rupture de dynastie s'accompagnerait de guerres épuisantes, dévastatrices, et chaque race se terminerait par 3 frères. La combinaison entre les actes des hommes et l'imprévu des destins ne cessera jamais d'étonner. Toute l'histoire de la monarchie française, pendant 5 siècles, avec ses grandeurs et ses drames, devait découler du règlement de succession que Mille de Noyers, ancien maréchal de Lost et conseiller au Parlement, achevait de lire aux hauts hommes du royaume ce 16 juillet-là. Alignés sur des bancs ou adossés au mur, barons, prélats, grands officiers, docteurs, juristes et délégués des bourgeois de Paris avaient écouté attentivement. Philippe de Poitiers les regardait, plissant les yeux pour combattre sa myopie qui brouillait un peu les visages et estompait le contour des groupes. « J'ai un fils, » se disait-il avec bonheur, « et ils ne l'apprendront que demain. » Ils se disposaient à soutenir l'attaque du duc de Bourgogne. Or, l'assaut vint d'un autre côté. Il y avait en cette assemblée un homme dont rien ne pouvait avoir raison, que la noblesse du sang n'impressionnait pas car il était du meilleur, qui ne s'inclinait pas devant la force car il était capable de renverser un bœuf, et sur lequel n'avait prise aucune combinaison autre que celle échafaudée par lui-même. Ce personnage était Robert d'Artois. Ce fut lui, aussitôt que Mille de Noyers eut terminé la lecture, qui se leva pour engager le combat, sans s'être concerté avec personne. Comme chacun ce jour-là faisait étalage de sa famille, Robert d'Artois avait amené sa mère, Blanche de Bretagne, une toute petite femme au visage mince, aux cheveux blancs, aux membres frêles, et qui semblait constamment stupéfaite d'avoir donné le jour à une telle merveille de géant. Coudes écartés et les pouces passés dans sa ceinture d'argent, Robert d'Artois lança « Je m'ébaubis, messeigneurs, qu'on nous vienne offrir un nouveau règlement de régence de toutes pièces fabriquées pour le propos, alors qu'il en existe déjà un dicté par notre dernier roi. » Les yeux se tournèrent vers le comte de Poitiers, et certains des assistants se demandèrent avec inquiétude si l'on n'avait pas escamoté une partie du testament de Louis X. « Je ne vois pas, mon cousin, dit Philippe de Poitiers, de quel règlement vous voulez parler. Vous étiez présent au dernier moment de mon frère, avec bien d'autres seigneurs qui sont ici, et nul ne m'a jamais fait savoir qu'il eût exprimé aucune volonté à ce sujet. « Aussi bien, mon cousin, répliqua Robert d'un ton narquois, quand je dis notre dernier roi, je ne parle pas de votre frère Louis Xe, que Dieu garde, mais de votre père, notre bien-aimé Sire Philippe le Bel, que Dieu garde en même temps. Or, le roi Philippe avait décidé, écrit et fait jurer à ses pairs par serment, que s'il venait à mourir avant que son fils fût assez homme pour exercer le gouvernement, les offices royaux et la charge de régence seraient remis à son frère, Monseigneur Charles, comte de Valois. Ah donc, mon cousin, puisqu'aucun autre règlement n'a été fait depuis, c'est bien celui-là, il me semble, qu'il faudrait appliquer. » Blanche de Bretagne opinait de la tête, souriait d'une bouche sans dents et promenait à la ronde ses yeux vifs et brillants, conviant du regard ses voisins à approuver l'intervention de son fils. Il n'était parole prononcée par ce braillard, procès soutenu par ce chicanier, violence ou truanderie commise par ce mauvais sujet qu'elle n'approuva, n'admira comme la révélation d'un prodige vivant. Elle reçut, donné par un signe de paupière, un remerciement muet du comte de Valois. Philippe de Poitiers, un peu incliné sur la coudoir de son faudesteuil, agita lentement la main. « J'admire, Robert, j'admire, dit-il, de vous voir si empressé aujourd'hui à suivre la volonté de mon père, alors que vous fûtes si peu obéissant à sa justice en son vivant. Les bons sentiments vous viennent avec l'âge, mon cousin. Soyez rassuré, c'est précisément la volonté du roi Philippe que nous nous sommes efforcés de respecter. N'est-il pas vrai, mon oncle ? Ajouta-t-il à l'adresse de Louis d'Évreux. Louis d'Évreux, qui depuis 6 semaines s'opposait aux manœuvres de Valois et de Robert d'Artois, prit la parole. « Le règlement sur lequel vous vous fondez, Robert, vaut pour le principe, mais non indéfiniment pour la personne. Que pareil accident, dans 50 ou 100 ans, survienne encore à la couronne, ce ne sera pas mon frère Charles qu'on ira chercher pour régenter le royaume, si longue vie que je lui souhaite. » Notre sire Dieu n'a pas fait Charles éternel tout exprès. Le règlement, en établissant que la régence revient au frère le plus avancé en âge, désigne donc bien Philippe. Et c'est pourquoi l'autre jour, nous lui avons prêté hommage. Ne remettez donc pas en question ce qui est tranché. On croyait Robert maté. C'était mal le connaître. Il baissa légèrement la tête, offrant aux rayons du soleil qui perçait les vitraux ses cheveux de cuivre, coiffé en rouleau sur sa large nuque. Son ombre s'étendait sur les dalles comme une menace jusqu'au pied du comte de Poitiers. « Les volontés du roi Philippe, reprit-il, ne contenaient rien au sujet des filles royales, ni qu'elles eussent à renoncer à leurs droits, ni que la décision fût remise à l'Assemblée des Pairs. » Un frémissement d'approbation agita aussitôt les rangs des seigneurs de Bourgogne et de Champagne, et le duc Eudes lui-même sur l'estrade s'écria « « Voilà qui est bien dit, mon cousin, et c'est tout juste ce que j'allais clamer moi-même !» Blanche de Bretagne, à nouveau, lança autour d'elle ses petits regards pétillants. Le connétable commençait à s'agiter sur son siège. On l'entendait grommeler, et ceux qui le connaissaient bien prévoyaient un éclat. « Depuis quand, reprit le jeune duc en se levant, cette nouveauté a-t-elle été introduite dans nos coutumes ? Depuis hier, je pense. » Depuis quand les filles, si les fils viennent à manquer, devraient-elles être privées des possessions et couronnes de leur père ? Le connétable à son tour se dressa. « Depuis le temps, messire duc, dit-il avec une lenteur calculée, que certaines filles ne donnent plus au royaume la garantie d'être bien nées de ce père dont on veut la faire hériter. Sachez enfin ce qui se dit par le monde et que notre cousin Valois nous a lui-même souvent répété en conseil étroit. La France est trop beau et trop grand pays, messire duc, pour que l'on puisse, sans que les pairs en aient délibéré, remettre la couronne à une princesse dont on ne sait si elle est fille de roi ou fille d'écuyer. » L'assemblée fit silence. Eudes de Bourgogne était devenu blanc. On crut qu'il allait se lancer contre Gaucher de Châtillon, qui attendait, ramassé dans sa force de vieil homme de guerre. Mais ce fut vers Charles de Valois que la colère du Bourguignon dévia. « Ainsi, mon cousin, s'écria-t-il, vous qui avez choisi d'unir votre fils aîné à une autre de mes sœurs, vous vous employez donc à unir celle-là qui est morte ?»« Eh, mon compère, dit Valois, pour ce qui est de se unir, votre sœur Marguerite, que Dieu lui pardonne ses péchés, n'a pas eu besoin de mon aide. » Et plus bas, il ajouta à l'adresse de Gaucher de Châtillon, « Quel besoin aviez-vous de m'aller mettre en cause ? Et vous, mon frère, par le mariage ?» continuait Eudes en désignant Philippe de Valois. « Approuvez-vous aussi les vilainies que j'entends ?» Philippe de Valois, empêtré de sa grande taille et cherchant vainement des yeux le conseil de son père, souleva les bras d'un geste d'impuissance et se contenta de dire « Il faut avouer, mon frère, que le scandale était gros. » L'assistance commençait de bourdonner. Du fond de la salle venaient des bruits de disputes, certains seigneurs tenant pour la bâtardise de Jeanne et d'autres pour la légitimité. Charles de la Marche, mal à l'aise, pâle, baissait la tête, comme chaque fois qu'il était question de cette misérable affaire. « Marguerite est morte, Louis est mort, se disait-il, mais ma femme blanche est toujours vivante et moi je continue de porter au front mon déshonneur. » À ce moment, le comte de Clermont, auquel personne n'accordait plus attention, donna des signes d'agitation.
« Je vous défie, messire! Je vous défie tous !» cria-t-il soudain.
« Plus tard, mon père, plus tard nous irons en tournoi !» dit Louis de Bourbon d'une voix qui se voulait tranquille et naturelle. Et en même temps, il invitait du geste les deux gigantesques écuyers à se tenir prêts pour le cas où il faudrait ceinturer le dément. Robert d'Artois contemplait, enchanté de soi, le tumulte qu'il avait provoqué. Le duc de Bourgogne lançait à Charles de Valois.
« Certes, je souhaite que Dieu pardonne à Marguerite ses péchés, si elle en a commis. Mais je souhaite, moi, qu'il pardonne à ses assassins. »
« Ce sont mensonges que vous avez écoutés, Eudes, répliquait Valois. Et vous savez bien que votre sœur n'est morte de rien d'autre que de honte et de remords en sa prison. » Maintenant que le comte de Valois et le duc de Bourgogne étaient bien profondément brouillés, sans chance aucune qu'ils unissent leur cause avant longtemps, Philippe de Poitiers étendit les mains dans un geste d'apaisement. Mais Eudes ne voulait pas la paix, bien au contraire.
« J'ai assez, ce jour-d'hui, mon cousin, entendu outrager la Bourgogne, » dit-il. « J'oppose refus à vous reconnaître pour régent, et j'affirme et maintiens devant tous les droits de ma nièce Jeanne. »
Puis, faisant signe au seigneur bourguignon de le suivre, il quitta la salle.
« Messeigneurs, messires, » dit le comte de Poitiers, « voici tout justement ce que nos légistes s'étaient efforcés d'éviter en remettant au conseil des pères de décider plus tard s'il y a lieu de la question des filles. Car si la reine Clémence donne un mal au royaume, toute cette querelle est sans objet. »
Robert d'Artois était toujours devant l'estrade, les poings aux hanches.
« Je retiens ceci de votre règlement, mon cousin, s'écria-t-il, que désormais, en coutume de France, le droit à succéder est contesté aux femmes. Je demande donc que me soit retourné mon comté d'Artois, qui fut indûment remis à ma tante Mao. Et tant que vous ne m'aurez point fait justice sur ce point, je ne saurais paraître à votre conseil. »
Là-dessus, il se dirigea lui aussi vers la sortie, suivi de sa mère qui trottinait, fière de lui et fière d'elle. La comtesse Mao éleva les mains d'un geste qui exprimait « Là, je l'avais bien dit !» Avant de franchir la porte, Robert, passant derrière le comte de Clermont, lui souffla méchamment à l'oreille.
« Au lance, cousin, au lance !»
« Coupez cordes ! Hurlez bataille !»
cria Clermont en se dressant. « Porc malfaisant, le diable tes tripes !»
lança Louis de Bourbon à Robert. Puis à son père, « Restez encore avec nous, les trompettes n'ont point sonné. »«
Ah, elles n'ont point sonné ! Eh bien qu'elles sonnent ! Il se fait tard !»
dit Clermont. Il attendait, l'œil vide, les bras écartés. Bourbon se dirigea, claudiquant, vers le comte de Poitiers et le pria à voix basse de hâter le cérémonial. Philippe approuva de la tête. Bourbon retourna au malade, lui prit la main en disant « L'hommage, mon père, l'hommage à présent. »
« Ah, certes, l'hommage. »
Le boiteux conduisant le dément, ils traversèrent l'estrade.
« Mes seigneurs, » dit Louis de Bourbon, « voici mon père, le plus ancien du sang de Saint-Louis, qui approuve le règlement en tout point, reconnaît messire Philippe comme régent et lui jure fidélité. »
« Oui, messire, oui !»
dit Robert de Clermont. Philippe trembla de ce que son grand-oncle allait bien pouvoir ajouter. « Il va m'appeler madame et me demander mon écharpe. » Mais Clermont continuait d'une voix forte.
« Je vous reconnais, Philippe, parce que le mieux désigné en droit et parce que le plus sage. Que veille sur vous depuis le ciel l'âme sainte de mon père pour vous aider à garder paix au royaume et défendre notre sainte foi. »
Un mouvement de stupéfaction heureuse parcourut les rangs des barons. Que se passait-il donc dans la tête de cet homme pour qu'il oscilla ainsi sans transition du délire à la raison, du ridicule à la grandeur? Il mit beaucoup de lenteur, beaucoup de noblesse à s'agenouiller devant son petit-neveu, étendit les mains. Lorsqu'il se releva et se retourna, ayant reçu l'accolade, ses vastes yeux bleus étaient noyés de larmes. L'assemblée entière se mit debout et fit une longue ovation aux deux princes. Philippe se trouvait confirmé dans la régence par tout le royaume, à l'exception d'une province, la Bourgogne, et d'un homme seul, Robert d'Artois.